Je commence aujourd'hui une série de podcasts qui traitera des sujets d'histoire géo de terminale ES. Il me semble que la plupart des chapitres sont communs à toutes les filières générales, donc ces podcasts peuvent aussi être écoutés par des L ou des S. Pour optimiser la mémorisation, je vous conseille de prendre des notes et de faire des schémas en écoutant ce podcast. Pour le premier podcast, on va se pencher sur le chapitre États-Unis-Brésil, les dynamiques territoriales. On s'intéresse donc à l'évolution territoriale des États-Unis et du Brésil et on comparera ensuite ces évolutions. Il peut être bon d'avoir une carte du Brésil et des États-Unis à portée. Donc on va commencer par s'intéresser aux dynamiques du territoire états-unien. On peut dès maintenant séparer les États-Unis en trois parties. La première étant le nord-est, centré sur la mégalopolis. Pour la seconde, il faut s'imaginer un croissant au sud des États-Unis qui va de la Caroline du Nord, qui passe par la Floride, le Texas, la Californie, pour aller jusqu'à la ville de Seattle, qui se trouve à l'ouest total de la frontière avec le Canada. Et pour la troisième, elle est constituée de la diagonale centrale des États-Unis. On y ajoute aussi l'Alaska et Hawaï. Pour ce qui est du nord-est, il est historiquement le centre d'impulsion des États-Unis. Il garde aujourd'hui une importance conséquente dans la puissance américaine. Il abrite 30% de la population états-unienne, 40% de son PIB et 70% des sièges sociaux. Cette partie du territoire est aussi fortement reliée avec le reste du monde à l'aide de puissantes infrastructures de transport et de télécommunications. Sur la façade atlantique du nord-est, on trouve la mégalopolis qui se centre sur New York, la première métropole mondiale, notamment du fait de ses fonctions financières. On y trouve aussi des villes importantes comme Washington qui est le centre politique des États-Unis avec un fort pouvoir décisionnel national et international. C'est là qu'il y a la Maison Blanche, le Congrès ainsi que la plupart des ambassades. Il y a aussi Boston qui rayonne comme pôle technologique et financier, ainsi que Philadelphie en tant que pôle universitaire et industriel. Dans la partie intérieure du Nord-Est, c'est une ancienne région industrielle qui arrive plus ou moins à faire sa reconversion. Détroit, qui est l'ancienne capitale mondiale de l'automobile, incarne aujourd'hui une métropole régionale en difficulté. Pittsburgh, qui est l'ancienne capitale de l'acier, monte une reconversion plutôt avancée vers les nouvelles technologies et le secteur médical. Chicago est un exemple de reconversion réussie. C'est aujourd'hui une métropole mondiale dynamique de par sa bourse de commerce et la puissance de ses activités industrielles. Plus récemment, le croissant périphérique s'est affirmé comme une région motrice. Cette partie des États-Unis abrite de nouveaux centres de la puissance américaine. En commençant par le Nord-Ouest Pacifique, on y a vu l'émergence d'une région motrice dominée par les métropoles de Seattle et Portland. Elle s'affirme dans l'industrie, les nouvelles technologies ainsi que les services. La Californie est économiquement l'état le plus puissant des États-Unis. Los Angeles, San Francisco et San Diego sont trois métropoles qui font la force de la Californie, que ce soit en termes démographiques, économiques ou encore vis-à-vis de l'influence mondiale qu'elles ont. Los Angeles se repose sur le secteur du divertissement, San Francisco sur les nouvelles technologies avec la Silicon Valley, et San Diego s'affiche en tant que point d'ancrage de la puissance navale américaine, et aussi comme ville transfrontalière avec le Mexique. Plus au sud, le Texas est aussi devenu un poids lourd de l'économie américaine. Sa force économique s'affirme à travers le triangle texan, c'est-à-dire les villes de Dallas, Houston et San Antonio. Les dynamiques de cet espace sont liées à l'industrie agroalimentaire, pétrolière, ainsi qu'aux nouvelles technologies. Au sud-est, la progression de la Floride est spectaculaire. Elle a été portée par un essor rapide du tourisme, du divertissement et des services financiers. Orlando est la capitale mondiale des parcs d'attractions, et Miami fait figure d'interface entre les États-Unis et les pays latino-américains. Néanmoins, au sud-atlantique, il est question d'une région motrice émergente, avec Atlanta comme métropole majeure. Finalement, les périphéries intérieures et éloignées ont un rôle bien moins important. Le sud intérieur est en retard de développement, les grandes plaines sont peu peuplées. Malgré cela, on aperçoit un dynamisme émergent du fait du tourisme ou encore de l'exploitation de gaz de schiste. Pour le cas des États éloignés, ils servent surtout d'atout stratégique aux États-Unis. L'Alaska offre un contact direct avec la Russie, ainsi qu'un accès aux ressources de l'océan glacial arctique. Tandis que Hawaï, en plus de son attractivité touristique, offre une présence états-unienne dans le Pacifique. Voilà pour ce qui en est des dynamiques territoriales des États-Unis. Attaquons-nous maintenant aux dynamiques du territoire brésilien. Donc à l'image du territoire états-unien, nous allons le diviser, cette fois-ci en quatre parties. La première étant le sud-est, qu'on appellera sud-esté, et le sud. Ensuite, on s'intéressera au centre-ouest, puis on dissociera le nord-amazonien du nord-est, qu'on appellera nord-esté. Il est clair que le sud-esté et le sud incarnent la puissance économique du Brésil. Le sud-esté est la plus riche et la plus peuplée des 5 régions brésiliennes, avec 40% de la population et 60% du PIB. Il y a notamment les trois plus grandes métropoles nationales qui sont São Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte. Par conséquent, on y trouve les premiers pôles commerciaux, industriels et financiers du Brésil, ainsi que les plus grandes universités. Cette région consomme 85% de l'énergie consommée dans le pays. Pour approfondir sur les trois grandes métropoles, la région de São Paulo forme la première région industrielle de toute l'Amérique latine. C'est devenu le principal centre de commandement économique du pays, ainsi qu'une métropole mondiale. À côté de cela, Rio de Janeiro est pour le Brésil une capitale culturelle et touristique. À moindre niveau, Belo Horizonte est une métropole régionale puissante. La grande industrie du secteur minier y est relayée par une forte croissance des secteurs de l'informatique, des biotechnologies ainsi que des services aux entreprises. En parallèle du sud-est, la région sud joue un rôle complémentaire. Elle a connu une forte modernisation et une diversification de ses activités économiques. La métropolisation y est incarnée par Curitiba et Porto Alegre. Pour ce qui est du centre-ouest, on y voit une périphérie émergente qui est intégrée à la mondialisation et qui ne cesse d'y renforcer sa participation. La construction de la capitale Brasilia, inaugurée en 1960, illustre la volonté de développer l'intérieur du pays. Cette ville est devenue une métropole qui centralise l'administration, les autorités politiques et militaires du pays. Hormis Brasilia, l'intégration du centre-ouest à l'économie brésilienne et mondiale s'est accélérée depuis les années 90. L'extension et la modernisation des activités agricoles sont responsables en grande partie de cet essor très rapide. Plus en retrait, nous trouvons le nord amazonien. C'est une périphérie partiellement mise en valeur et partiellement mise en réserve. C'est une région faiblement peuplée, avec 8% de la population du pays pour 45% du territoire brésilien. Le peuplement se concentre le long des fleuves et des routes. D'ailleurs, il faut remarquer qu'historiquement, le territoire était entièrement fluvio-centré. Aujourd'hui, le rôle des routes ne cesse de croître. La mise en valeur de cette région connaît une forte accélération depuis 1950. Il y a eu dans un premier temps une politique favorisant la colonisation ainsi qu'un aménagement du territoire prononcé. Par conséquent, il y a eu énormément de déboisement. Au début des années 2010, le rythme de la déforestation a nettement ralenti. Cette décélération est associée à l'application d'une politique environnementale plus protectrice. Aujourd'hui, la moitié de la région nord a un statut de zone protégée. Belém et Manaus sont deux métropoles importantes de cette région. Le nord-est est la région la moins développée du Brésil, mais elle est en phase de rattrapage. La pauvreté et l'analphabétisme, qui ont un taux supérieur à la moyenne nationale, restent aujourd'hui des facteurs du retard du développement de cette partie du territoire brésilien. Mais depuis le début du XXIe siècle, le nord-est est en progrès, et la région est engagée dans un processus de rattrapage. La modernisation de l'agriculture, l'essor de nouvelles activités industrielles et l'émergence de métropoles régionales, comme Salvador de Bahia, Recife et Fortaleza, participent à la progression de l'IDH. Ce développement a été plus rapide dans le nord-est que dans le reste du Brésil. De plus, on voit une progression du tourisme national et international. On en a fini avec les dynamiques du territoire brésilien. Il faut maintenant les comparer avec celles des États-Unis. On remarque déjà deux processus historiques marqués par la conquête d'un vaste espace intérieur. Aux États-Unis comme au Brésil, la formation du territoire a progressé à partir du côté atlantique. Pour les États-Unis, elle s'effectue pour l'essentiel en un siècle, du 19e au 20e, de la façade atlantique vers la façade pacifique. Pour le Brésil, cette conquête s'étend sur plusieurs siècles, et elle est marquée par des cycles économiques successifs. Cycle du sucre à Salvador, cycle de l'or depuis Rio, cycle du café depuis Sao Paulo. Puis après 1950, le pays lance une politique de peuplement et de mise en valeur de l'Amazonie. Avec un siècle d'écart, les deux pays ont connu une forme de conquête de l'Ouest. Le centre historique du Nord-Ouest a perduré pour le cas des États-Unis, alors que pour le Brésil, on a vu le centre historique décliner et changer à plusieurs reprises. De Salvador au XVIe siècle à Rio au XVIIIe siècle, puis à Sao Paulo au XXe siècle. Pour ce qui est des dynamiques de littoralisation et d'affirmation des interfaces maritimes, il est clair qu'aux États-Unis, les façades maritimes ont été rapidement dynamisées par leur participation à la mondialisation. Au Brésil, ces façades sont en formation. Néanmoins, dans ces deux pays, les espaces intérieurs sont reliés aux façades maritimes par des axes fluviaux majeurs. On peut citer le Mississippi aux États-Unis ou l'Amazon au Brésil. Le cas des dynamiques de métropolisation sont presque similaires. Aux États-Unis, la dynamique de métropolisation est très puissante. Il y a New York, première ville mondiale, ainsi que la mégalopolis. Il est clair que les métropoles états-uniennes ont un rayonnement plus élevé que les métropoles brésiliennes. Mais ces dynamiques tendent à converger. Certaines évolutions des villes brésiliennes sont similaires à celles passées des métropoles des États-Unis. On peut parler de gentrification ou d'aménagement de communautés fermées par exemple. On parle en général de fractures socio-spatiales très marquées dans les métropoles. Les accords économiques permettent de dynamiser les interfaces terrestres. Pour les États-Unis, l'ALENA a permis la formation d'espaces transfrontaliers très actifs, avec le Mexique ou le Canada. D'une façon plus limitée, le Mercosur participe à ce processus au Brésil. Les dynamiques transfrontalières se développent avec le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie ou encore le Venezuela. Le dernier point repose sur la maîtrise du territoire. Aux États-Unis, c'est une réalité établie. Les distances sont maîtrisées par une circulation efficace, et les ressources naturelles sont mises en valeur, par exemple le gaz de schiste. Au Brésil, c'est une nouvelle fois un processus inachevé. La maîtrise des distances est incomplète et la mise en valeur des ressources se poursuit. Les deux pays ont de l'espace en réserve, une proportion au gaspillage, et sont confrontés à de sérieuses problématiques environnementales. Ils doivent trouver un équilibre entre exploitation et préservation. Pour conclure, on a remarqué des processus communs, mais pas de même intensité. On a aussi vu que les dynamiques territoriales sont impactées par les évolutions économiques et l'implication des régions dans la mondialisation. Globalement, aux États-Unis, il y a une tendance de longue durée à un rééquilibrage entre le nord-est et les nouvelles régions motrices. Au Brésil, ce rééquilibrage doit passer par un rattrapage du nord-est. Donc pour un exercice de composition sur ce thème, on peut s'appuyer sur une problématique de cette forme. Comment les territoires des États-Unis et du Brésil, deux puissances mondiales, se transforment-ils ?